avec vous Jean-Roger Billon. Le Monde aujourd'hui, édition consacrée en grande partie à la politique américaine, avec le retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche. Et ce qu'il faut savoir ce lundi 22 juillet 2024, la décision prise dimanche par le président Joe Biden de se retirer de la course à la présidence a provoqué une onde de choc à la Maison Blanche et au-delà.
Le fait de renoncer, ça montre une grande sagesse parce que, comme vous le savez, en Afrique, il y a plusieurs chefs d'État qui s'agrippent au pouvoir, qui font des coups d'État constitutionnels.
Des opinions et des analyses dans un instant. Environ 4000 délégués démocrates se réuniront à Chicago. Ce sera du 19 au 22 août pour choisir le candidat du parti pour l'élection du 5 novembre. Kamala Harris reste en pole position pour obtenir l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre contre Donald Trump.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past three years is unmatched in modern history. In one term,
le portrait de Kamala Harris dans ce journal, ne manquez pas notre page pro ainsi que la Minute Echo. VOA Afrique, bonsoir, bienvenue. Joe Biden a annoncé dimanche renoncer à briguer un second mandat, sa vice-présidente Kamala Harris se disant prête à le remplacer pour battre Donald Trump dans une campagne démocrate désormais plongée dans l'inconnu. Rosine Monizero.
Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat, a écrit dans un communiqué Joe Biden. Aujourd'hui, je veux apporter mon soutien total et mon appui à Kamala pour être la candidate de notre parti cette année, a-t-il ajouté, à un mois de la convention qui aurait dû l'introniser candidat. Dans son premier discours prononcé lundi, après que le président Joe Biden s'est retiré de la course à l'élection présidentielle de novembre, Kamala Harris a salué le bilan de Joe Biden, qu'elle a qualifié de sans équivalent dans l'histoire moderne. Après avoir obtenu le soutien du président démocrate, Madame Harris s'est immédiatement déclarée prête à remporter l'investiture démocrate lors de la convention du parti mi-août à Chicago. Le retrait de Joe Biden a cependant déjà rapporté gros au parti démocrate qui a enregistré la plus grande collecte de fonds en une seule journée pour la présidentielle, soit 46,7 millions de dollars, a annoncé Act Blue, le groupe de levée de fonds pour le parti.
Joe Biden a apporté son soutien total et son appui à la vice-présidente Kamala Harris pour être la candidate du Parti démocrate cette année. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint Calvin Dark, directeur de RC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington.
Oui, le processus n'est pas automatique. Ça veut dire qu'il y aura un processus démocratique du Parti démocrate, mais en réalité, elle va être la candidate pour le Parti démocrate parce que tous les autres démocrates qui peut-être voulaient se présenter, ils ont déjà donné leur soutien à Kamala Harris. Et ça envoie un message très clair que bien que le processus est ouvert, il n'y a pas vraiment des concurrents contre Kamala Harris.
Il y a le gouverneur du Kentucky qui est dit prêt à être sur le ticket, qui est l'autre candidat qui peut, donner beaucoup plus de poids au ticket démocrate.
Je crois que le gouverneur de mon État, Roy Cooper, parce que le Caroline du Nord, c'est un État gagné par Obama, mais aussi gagné par Trump. Avec le gouverneur Beshear de l'État de Kentucky, ça va être impossible pour le démocrate de gagner dans cet État parce que c'est un État très républicain. Mais il est un candidat possible. Aussi que Mark Kelly de l'État d'Arizona, il est sénateur. Et aussi le gouverneur de l'État de Pennsylvanie, Josh Shapiro.
Et les faiblesses contre le ticket républicain représenté par Trump en novembre.
Oui, maintenant, c'est l'envers de ce qui s'est dit il y a deux semaines. Parce que maintenant, c'est Donald Trump, le candidat le plus âgé dans l'histoire des États-Unis. Et aussi, il n'y a pas de nouveau avec Donald Trump et J.D. Vance. Chez les démocrates, on a une femme noire, et peut-être un homme jeune à côté d'elle. Et ça, c'est l'enthousiasme qui manquait avant avec Joe Biden. Et je crois aussi, Kamala Harris, elle est avocate, elle était procureure. Alors, elle sait bien comment faire son argument contre Donald Trump. Et je crois que surtout pour le débat prévu entre Donald Trump et Kamala Harris, il a peur parce que il n'est pas quelqu'un qui peut articuler de manière effective la politique.
Calvin Dark, analyste politique pour Alioune Sall, l'enseignant et acteur de la société civile au Sénégal, la décision de Joe Biden est empreinte de sagesse et montre surtout la nécessité de préparer la relève démocratique.
Je crois que c'est une décision très sage. Certainement, vu son âge avancé, 81 ans, il a dû mesurer la charge présidentielle qui pèse sur ses épaules. Et mais également, en tant que leader d'un parti, il a pensé certainement à une relève générationnelle pour permettre à de nouveaux leaders démocrates de lui succéder, d'avoir la chance et la lourde responsabilité de gouverner les États-Unis d'Amérique. Certainement également l'efficacité dans la gestion du pays.
Que dire du choix de Joe Biden porté sur Kamala Harris, qui est la première afro-américaine à être vice-présidente?
C'est une bonne décision vu le profil de Kamala, sénatrice, procureure, mais également vu ses compétences qu'elle a démontrées au niveau national et international, sans oublier, comme vous l'avez souligné, le fait qu'elle soit issue d'une minorité d'origine asiatique, mais également afro-américaine. Je crois que c'est une excellente chose, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine, mais c'est également un clin d'œil aux minorités pour dire que simplement les États-Unis, ce n'est pas un pays démocratique, mais c'est également un pays où les gens ont les mêmes droits. Elle a montré suffisamment de capacité pour être en mesure de gérer les États-Unis.
Quelle leçon Joe Biden donne-t-il aux présidents africains, ceux qui restent au pouvoir au-delà de leur mandat constitutionnel, malgré des appels exigeant leur départ?
Premièrement, on peut dire que non seulement le fait de renoncer, ça montre une grande sagesse parce que, comme vous le savez, en Afrique, il y a plusieurs chefs d'État qui s'agrippent au pouvoir, qui font des coups d'État constitutionnels ou bien des coups d'État militaires. Je crois que c'est une belle leçon démocratique pour eux. Ils devraient penser à son exemple parce que, comme on le dit encore en haut, pour dire que ça veut dire que quand tu as peur de ta succession, tu risques de mourir brutalement. Donc, il a fait une très bonne décision. Il ne sert à rien de s'agripper sous les rênes du pouvoir. Il faut donner le témoin aux jeunes leaders. Ça permet une relève générationnelle. Voilà le message certainement qu'il a voulu envoyer à ce chef d'État africain. Heureusement, au Sénégal, nous avons, nous, cette transition démocratique. Nous faisons partie des rares pays où il n'y a pas de coup d'État. L'Afrique est en train de regarder les États-Unis, qui est une grande puissance, qui est l'un des pays les plus regardés au niveau du monde.
Alioune Sall, enseignant et acteur de la société civile au Sénégal, joint par Nani Talani. L'équipe de campagne de Kamala Harris, ses alliés et ses partisans ont commencé à contacter des centaines de délégués pour obtenir leur appui avant la Convention nationale démocrate du 19 août. Caroline Pressouti, notre correspondante principale à Washington, revient sur ses origines et ses quatre dernières années de mandat. Le récit est de Gabi Dorsil.
Un moment historique aux États-Unis en 2021. L'ancienne sénatrice Kamala Harris est devenue la première femme à accéder à la vice-présidence.
C'est un honneur pour moi d'être ici, de me tenir sur les épaules de ceux qui m'ont précédée.
Harris est également la première noire américaine et la première indo-américaine à occuper le deuxième poste le plus élevé de la nation. D'autres démocrates, comme le député Barbara Lee, disent qu'elle montre la voie.
Elle a brisé tant de plafonds de verre pour tant de femmes.
Fille d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, Kamala Harris est née à Oakland, en Californie. Une peinture murale à son effigie apparaît dans l'école où elle a été transportée en bus lorsqu'elle était enfant, dans le cadre des efforts d'intégration raciale. Diplômée de l'université Howard à Washington, D.C., Mme Harris est devenue la première femme procureure de San Francisco en 2004, puis en 2011, la première femme noire à occuper le poste de procureure générale de la Californie. Au cours de ses années à la vice-présidence, Kamala Harris s'est exprimée sur l'annulation par la Cour suprême des États-Unis de l'arrêt Roe contre Wade, une décision de 1973 qui avait rendu l'avortement légal dans l'ensemble du pays. Donald Trump, durant son mandat, a nommé 3 juges conservateurs à la haute cour.
Il est fier, il utilise le mot fier, il s'attribue le mérite d'avoir renversé Roe, donc ne vous y trompez pas, si Trump en a l'occasion, il signera une interdiction nationale de l'avortement pour rendre l'avortement illégal dans tous les États.
La vice-présidente se félicite également du maintien de la loi sur les soins abordables et de la réduction du prix de l'insuline obtenue par l'administration Biden.
Levez la main si un membre de votre famille est diabétique.
Très tôt, elle a été pressentie pour diriger les efforts de l'administration à la frontière. Mais la campagne de Biden a fini par se défendre, l'immigration étant un sujet clé de l'élection de 2024.
Désormais, les conjoints sans papier de citoyens américains qui se trouvent dans le pays depuis 10 ans ou plus peuvent y rester, tandis qu'ils demandent la carte verte.
Avec le retrait du président Biden de la course dimanche, si Kamala Harris est investie candidate, elle entrera dans l'histoire en tant que première femme noire et indienne américaine à se présenter à la plus haute fonction de la nation.
Et la vice-présidente américaine Kamala Harris a rendu hommage ce lundi au président américain et s'emploie désormais, je vous l'ai dit, à s'assurer le soutien du Parti démocrate en vue d'une investiture officielle. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
En RDC, les autorités du Sud Kivu ont annoncé depuis vendredi la suspension de toutes les activités minières pour remettre de l'ordre dans le secteur, améliorer la traçabilité de la production et maximiser les recettes. Une réunion sera organisée avec les sociétés minières et leurs coopératives partenaires le 30 juillet pour faire l'état des lieux de l'exploitation minière dans la province et revoir les modalités de régularisation de l'exploitation minière. Au Nigeria, les législateurs ont mis en place ce lundi une commission chargée d'enquêter sur les pénuries de brut dans les raffineries locales, l'importation de carburants polluants, les activités des agences de normalisation et les raisons pour lesquelles les raffineries, y compris celles de Dangote, ne sont pas en mesure de s'approvisionner en pétrole brut de manière adéquate, ainsi que les files d'attente croissantes pour le carburant. Certaines de ces questions sont au cœur d'un désaccord entre la raffinerie Dangote et l'autorité de régulation pétrolière en aval du pays. Pour terminer, la société pétrochimique sud-africaine Sasol a augmenté ses exportations de charbon de 5% au cours de l'année qui s'est achevée le 30 juin, a-t-elle déclaré ce lundi. Cette embellie a été rendue possible grâce à l'amélioration des performances du transport ferroviaire de marchandises et à l'augmentation de la production dans sa mine de charbon de Toubelisha.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
La prochaine Super Coupe de la CAF aura lieu en septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.
Le match qui va lancer la saison 2024-2025 opposera les deux grands clubs du Caire, Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions, et le Zamalek, qui a remporté la Coupe de la Confédération. La rencontre aura lieu le 27 septembre à Riyad. C'est la deuxième fois que le Royaume saoudien abrite cette compétition après la signature d'un partenariat entre la CAF et l'Arabie saoudite.
Football toujours, la Super Coupe de Belgique dérape.
Des signes nazis de la part des supporters du club Bruges ont émaillé samedi soir la Super Coupe de Belgique entre les Blauw-en-Zwart, champions, et l'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la Coupe, selon une vidéo publiée sur le site de la dernière heure Les Sports dimanche. La séquence d'une durée de près de 2 minutes montre au moins 2 supporters tendre le bras tendu en l'air sous le regard amusé et non réprobateur des spectateurs présents à ses côtés. D'après la spectatrice qui a filmé la scène, des cris de singe ont également été entendus.
Jeux olympiques 2024, Macron visite le village olympique.
Emmanuel Macron a affirmé lundi que tout était prêt pour les Jeux olympiques de Paris qui s'ouvrent vendredi lors d'une visite au village des athlètes à Saint-Denis, au nord de la capitale française. « Nous sommes prêts et nous serons prêts tout le long des Jeux », a lancé le président Macron en inaugurant le commissariat de police et la caserne des pompiers du village olympique.
LeBron James, porte-drapeau de la délégation américaine.
La superstar du basket, LeBron James, meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, sera le porte-drapeau masculin de la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi, a annoncé ce lundi le comité olympique américain. James, 39 ans, a été choisi par les sportifs de l'équipe olympique américaine qui participeront aux Jeux. C'est un honneur incroyable de représenter les États-Unis, surtout dans un moment qui peut rassembler le monde entier, a souligné le basketteur des Los Angeles Lakers dans le communiqué du comité olympique américain. Le nom de la porte-drapeau sera annoncé mardi.
Page des sports VOA Afrique, signé Eric Manirakiza.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La RDC a été réintégrée dans l'AGOA en 2019, un programme américain créé en 2000 qui facilite la coopération avec les pays africains, notamment en enlevant les barrières douanières à l'importation. Elodie Ntamuzinda, experte au Conseil économique et social de la RDC, est actuellement à Washington pour faire le plaidoyer de la société civile auprès de l'AGOA avant qu'il soit renouvelé ou non pour 5 ans.
Le ministre du Commerce extérieur est invité et c'est lui qui est la bouche autorisée de parler pour la République démocratique du Congo. Mais je peux vous avouer que nous, en tant que société civile, le mouvement des jeunes, des femmes, nous avons beaucoup milité pour que notre pays réintègre AGOA. Et comme nous avons été retirés depuis 2011, suite aux motifs qui ont été évoqués, la mauvaise gouvernance, les élections opaques, aussi les violences faites aux femmes, les droits humains qui étaient bafoués. Donc, il y avait autant des griefs qui étaient évoqués. Et il a fallu, au fil du temps, commencer à voir et à palper le progrès.
Au niveau du Conseil économique et social, vous êtes experte. Le taux de chômage de la jeunesse est très élevé. Est-ce que vous avez des initiatives particulières qui pourraient permettre à de nombreux jeunes de créer leur entreprise ou bien d'être embauchés dans des entreprises ?
Et c'est ça la situation paradoxale. Lorsque nous avons des richesses, des ressources que nous ne savons pas transformer réellement en richesses, et là nous disons, nous n'attendons pas assez que le gouvernement nous embauche. Nous devons nous-mêmes créer nos propres entreprises, nos propres emplois, et pousser le gouvernement à nous accompagner. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé par les programmes de formation, de sensibilisation, de vulgarisation et de plaidoyer. Et aujourd'hui, nous avons des jeunes entrepreneurs qui sont en train vraiment de se former avec la nouvelle technologie, puisque le marché aujourd'hui, c'est pas dans les grands marchés, c'est seulement dans les supermarchés, c'est aussi en ligne. Tout ça, c'est la nouvelle technologie et les jeunes doivent être aussi au diapason, et même les femmes.
Quel est le potentiel que vous avez remarqué en cette population extrêmement prometteuse ?
D'abord, nous avons des jeunes, vraiment c'est une masse à revendre. Et c'est une jeunesse très forte, très engagée. Et si vous le voyez vraiment sur le marché d'emploi, tout ce qui manque, c'est l'accompagnement. Et c'est cet accompagnement qui a fait à ce que nous commencions à plaider au niveau national, sous-régional, international et aujourd'hui au niveau mondial. Pour qu'on sache qu'il y a cette jeunesse qui travaille, qui est déterminée à produire, qui commence déjà à implanter des entreprises par-ci, par-là, pour faire nourrir le monde avec notre sol fertile et ouvrir vraiment les portes à ces jeunes, à ces femmes, avec tous les produits qu'ils vont présenter. Et c'est pour cela que nous plaidons pour que AGOA soit prolongée.
Elodie Ntamuzinda, experte au Conseil économique et social de la RDC, répondait aux questions de Nathalie Barge. Au Gabon, la capitale Libreville connaît un été hors du commun. La ville vibre au rythme d'une campagne de promotion du savoir-faire local. Les coopératives agricoles et artisans locaux ont ouvert des espaces de vente, des expositions qui donnent à découvrir le textile, l'art culinaire et divers produits endogènes. Le rendez-vous du Made in Gabon enregistre aussi la présence active de transformateurs venus d'autres pays africains. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangenze.
Mama Dior a longtemps vécu au Gabon avant de rentrer définitivement chez elle au Sénégal. Le temps du Festival international des beaux-arts de Libreville, la sexagénaire tient un stand d'exposition de textiles.
On a les tenues qu'on a, ça vient de Dakar. Il y en a qui viennent de Maroc. Il y en a qui viennent de Atouba. Moi, j'étais là depuis l'âge de 25 ans. Mais sur de ça, j'étais sur rentrer au pays. Mais maintenant, comme les enfants ils sont ici, s'il y a les foires, je viens vendre, je retourne.
Le Festival international des beaux-arts de Libreville est à sa 3e édition. Il se veut un rendez-vous de toutes les cultures. Maurice Ondo est le promoteur du FIBA 240.
Nous devons apprendre à partager des valeurs, puisque nous avons les mêmes souches. Et alors, c'est important pour nous de voir ce que les autres font, prendre ce qui est positif chez eux. Et nous aussi, on donne la possibilité aux autres de venir voir ce que nous faisons. C'est ce qui fait qu'on invite les internationaux. Là, on a, depuis la première édition, le Mali qui nous honore. Et là, on a eu d'autres pays. On a le Congo-Kinshasa qui est représenté actuellement. On a le Cameroun qui est représenté. On a le Sénégal juste derrière nous.
Juste à un jet de pierre du festival s'ouvre à peine une foire d'exposition du Made in Gabon. Martin, un jeune entrepreneur en herbe, fait la promotion de son jus de canne à sucre.
Le processus de transformation se fait à base de cette machine. En fait, c'est un broyeur semi-industriel fabriqué par nous-mêmes. C'est une machine qui a la particularité d'écraser de la canne à sucre et de sortir le jus frais déjà, donc prêt à la consommation. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'additif, c'est on broie et on sert aux clients.
Déambuler entre les allées des stands permet de découvrir les mets africains et une variété de produits fabriqués localement. Marie Solange est une exposante venue du Cameroun.
C'est un module qui consiste à habiller les accessoires en tissu paille, tels que les sacs, les bijoux, les chaussures, les babouches. Et nous faisons aussi dans la fabrication des sacs, fabrication des boucles, des gourmettes. En fait, ce sont les accessoires de femmes.
Ces foires et festivals constituent un circuit direct entre producteurs et consommateurs. Mais au-delà, c'est un rendez-vous qui repense l'avenir du Gabon et qui agit pour la promotion, la valorisation et la consommation des produits locaux. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Au Niger, c'est à partir de ce lundi que la décision des autorités militaires de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe entre en vigueur. L'essence super et le gasoil sont désormais vendus à près de 7% de moins que leur prix pratiqué jusqu'ici, à la grande satisfaction des consommateurs. Le reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est dans le secteur du transport public que cette décision est le plus saluée. Issa Moussa est membre du syndicat des conducteurs de taxi.
Un chauffeur de taxi qui prend 20 litres. 20 litres déjà, tu as une réduction de 800 francs. 800 francs, ça a déjà défait 4 passagers que tu as eu comme avantage. C'est un grand acquis. Et j'ai été très content quand j'ai appris ça. Vraiment, c'est une très grande satisfaction pour nous.
Pour avoir fait de la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe son combat de ces dernières années, Mahamadou Gamaké, secrétaire général de l'Union des travailleurs du secteur des transports du Niger, a été à plusieurs fois arrêté.
Ça fait 13 ans, voire même 14 ans, que les Nigériens ont demandé, exigé, revendiqué la réduction du prix du carburant. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'ensemble des citoyens nigériens. C'est vraiment du social. Et nous le souhaitons bon vent. Et nous espérons que Dieu nous donne encore d'autres perspectives, d'autres ressources pour qu'on l'exploite, pour que quand même le Niger soit un pays émergent, le Niger soit un pays dont nous rêvons.
Un des effets attendus de cette décision, c'est la réduction des prix des transports et conséquemment de ceux des produits de première nécessité, des fortes attentes des citoyens.
Les transporteurs doivent diminuer le coût, puisqu'on a diminué le prix des carburants. CNSP a fait une bonne chose. Et on veut à ce qu'il continue d'ici peu de temps encore de diminuer pour les de nous diminuer encore le prix des carburants.
On n'a qu'à essayer encore de diminuer. Parce que maintenant, le pays, maintenant, ça va un peu mal. Les affaires ne marchent pas bien. Mais si on arrive à régler, à faire de l'essence, là, même amener la nourriture pour les peuples, ça va un peu nous arranger.
Je pense que les commerçants aussi, grâce à la réduction du prix à la pompe, peuvent revoir leur prix. Les commerçants qui sont des gros importeurs et tout. Et si on prend au niveau des consommateurs, comme nous, qui ont des petits engins, les motos, les véhicules et tout, je pense que ça serait profitable pour tout le monde. En fait.
Cette décision des militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie intervient à quelques jours du premier anniversaire de leur prise de pouvoir. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Dans une démonstration remarquable d'ingéniosité et de détermination, un soldat de l'armée somalienne a réussi ce que beaucoup pensaient impossible. Construire un hélicoptère à partir de rien, Najib Ahmed de la VOA nous raconte son histoire depuis Mogadiscio en Somalie, un reportage que reprend Michel Joseph.
Voici Mohamed Ali, 24 ans, membre de l'armée nationale somalienne et chauffeur de sa section. La passion pour l'aviation l'a conduit à se lancer dans un projet extraordinaire. Lorsqu'Ali a commencé à construire l'hélicoptère en décembre 2023, il a acheté toutes les pièces avec son propre argent et s'est approvisionné localement.
J'ai toujours rêvé d'être ingénieur en aéronautique, mais en grandissant en Somalie, les opportunités étaient rares. Voici un hélicoptère que j'ai construit de toutes pièces avec mon petit salaire. Beaucoup de gens ne croient pas que je l'ai construit tout seul. Malgré mes efforts, je n'ai reçu aucune aide.
Mohamed explique que l'aspect le plus difficile du processus a été le manque de fonds pour acheter toutes les pièces en même temps, car elles étaient chères, et le manque de temps pour se concentrer, car il devait accomplir des tâches militaires en même temps qu'il travaillait sur l'hélicoptère. Mais ces difficultés n'ont pas dissuadé Ali de poursuivre sa passion. Il a regardé des tutoriels sur YouTube et a conçu l'hélicoptère tout seul. Ses collègues militaires et ses commandants le félicitent pour sa détermination et ses efforts.
Mohamed est un soldat innovant et talentueux. Il nous a parlé de ses talents d'ingénieur à l'école de formation militaire en Ouganda. Une fois que nous sommes revenus en Somalie, le commandement lui a accordé des congés pour qu'il puisse présenter ses innovations. Nous demandons au gouvernement d'aider ce jeune soldat, car ses capacités d'innovation sont utiles à l'armée somalienne et inspireront les générations futures.
L'école d'aviation de la ville vise à former une nouvelle génération de professionnels de l'aviation afin de répondre à la demande croissante de personnel qualifié dans le pays.
Le Mogadishu Aviation College a pour objectif d'aider les étudiants somaliens qui souhaitent suivre des cours d'aviation afin qu'ils puissent aider et travailler dans les aéroports du pays. Ce que Mohamed a accompli est vraiment remarquable. Construire un hélicoptère à partir de rien est une tâche incroyablement complexe qui nécessite des connaissances approfondies en ingénierie et en principe aéronautique. Sa réalisation illustre l'ingéniosité et la débrouillardise du peuple somalien.
Selon une étude menée par la Somali National Infrastructure Strategy, la Somalie compte environ 60 pistes d'atterrissage, aérodromes et aéroports répartis uniformément dans tout le pays et développés depuis l'indépendance, principalement pour des raisons militaires et stratégiques. Mohamed n'a pas encore accès à une piste d'atterrissage pour faire voler son hélicoptère nouvellement construit. Toutefois, en défiant tous les obstacles et en visant le ciel, le jeune innovateur inspire les jeunes Somaliens à poursuivre leurs rêves malgré les défis posés par les ressources et les infrastructures limitées du pays.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref, les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1-703-350-37-31. Chers passagers, ne ratez pas votre avion supersonique, super rapidos. Jobless. Peace Africa.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.